Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode consacré à PCDSS. Pour traiter de ce sujet, nous recevons des invités qui sont des spécialistes puisqu'ils sont QSA, c'est-à-dire qu'ils sont auditeurs PCDSS. Donc nous avons Tony Belot.
Bonjour, bonjour.
Julien Levrard.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Le Riche.
Bonjour.
Nous recevons aussi Laurent Penoux, qui est opérateur de paiement, donc certifié PCDSS.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Prigent.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc, Hervé, PCDSS, qu'est-ce que c'est?
Ah, PCDSS. PCI, Payment Card Industry, DSS, Data Security Standard. Donc en fait, PCDSS, c'est tout simplement un référentiel qui contient tout un tas de règles de sécurité. Le PCI Council a fait ce document pour que les émetteurs de cartes puissent ne pas être responsables lorsque les informations des cartes bancaires partent dans la nature. Ils imposent par contrat, au travers des banques, à tous les opérateurs qui manipulent des numéros de carte bancaire d'appliquer dessus des règles de sécurité. Ces règles de sécurité sont dans le fameux PCI-DSS. Et dans ces règles de sécurité, on va trouver du bon sens comme des choses plus exotiques. Le principe, c'est que ce sont les opérateurs de carte au travers de leur PCI Council qui ont décidé quelles étaient les bonnes mesures de sécurité à appliquer sur les données cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'écosystème? On a parlé, par exemple, de QSA. Qu'est-ce que ça veut dire, QSA?
Alors, QSA, Qualified Security Assessor, c'est celui qui a suivi une formation vendue par le PCI Council très cher, qui a suivi cette formation, qui a passé et réussi un examen à l'issue de cette formation, et qui a, à ce moment-là, en travaillant dans une société qui va faire des certifications PCI, qui a la possibilité de participer à ces certifications et de signer le document qui atteste de la conformité au référentiel PCI-DSS du client, document qui s'appelle le ROC, Report of Compliance, et le QSA, le pauvre QSA, passe ses soirées et ses nuits à écrire le ROC.
On va rencontrer encore quels autres acronymes plutôt? Par exemple, en ce qui concerne la carte bancaire par elle-même, les numéros de carte bancaire, etc.
Qu'est-ce qui veut expliquer le CVV là?
Alors, sur les cartes bancaires, il y a tout un tas d'informations qui sont inscrites dessus, voire dedans, à l'intérieur de la puce, et notamment un numéro d'identification, des données personnelles comme le nom du porteur, et des codes de vérification, qui sont des codes techniques qu'on n'expliquera pas forcément ce soir, qui permettent de vérifier la validité de la carte. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que PCI-DSS, ça ne vise à protéger que le numéro de carte plus les informations qui sont sur la carte. Ça vise pas du tout à protéger les transactions qui sont réalisées avec la carte. Ça, c'est pas le problème du PCI Council. Là, on ne vise vraiment que à protéger le cycle de vie des numéros qui sont, enfin, des informations qui sont inscrites sur la carte.
Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment que ces informations ne fuitent pas.
C'est ça. Le standard a été créé pour permettre de protéger les numéros de carte bancaire, mais pas les transactions. Et ça, c'est vraiment important. On est vraiment dans une logique d'assurer uniquement la confidentialité des numéros de carte bancaire, et même si on va un petit peu plus loin, des numéros de carte bancaire en masse. C'est-à-dire que le standard n'a pas vocation à protéger un numéro de carte bancaire unitaire. D'ailleurs, c'est une donnée qui est quasiment publique. Quand vous confiez votre carte bancaire à un serveur dans un restaurant, il a accès à ce numéro-là. Le standard PCI-DSS, il a vocation à éviter les principaux scénarios d'incident qui consistent en une fuite massive de numéros de carte bancaire.
C'est ce qu'on appelle le PAN, non?
C'est ça, ça s'appelle le Primary
Account Number.
Non, Primary Account Number, c'est ça?
Ouais.
C'est bien.
Ça vient d'où? Pourquoi on en est arrivé à ça? J'ai cru entendre que c'est suite à une brèche de données en 2005 ou en 2007, non?
Le standard PCI, il a été créé pour uniformiser les différents programmes de sécurité que chacun des réseaux membres du PCI SSC, donc Visa, Mastercard, JCB, avait à disposition, et d'ailleurs ont toujours à disposition. Mais plutôt que de demander aux marchands d'appliquer chacun leur propre standard, avec potentiellement des différences, ils ont décidé de créer ce standard de sécurité pour uniformiser les mesures de sécurité à mettre en place pour la protection de la donnée carte.
D'accord, donc ça ne fait pas de suite à une brèche en fait.
Peut-être que ça a été un élément déclencheur, mais je ne sais pas l'origine exacte.
Enfin, en sécurité, il n'y a pas grand-chose qui se passe avant que les gens soient fait tabasser, non ? D'habitude.
Je pense qu'on peut confirmer. Hein, c'est, il faut, comme dans pas mal d'autres domaines, hein, il faut qu'il y ait des dommages pour qu'il y ait des mesures qui soient prises. Alors, PCI DSS, il y a des mauvaises langues qui disent qu'on confond compliance et sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
La compliance, c'est la conformité à un référentiel. Là, PCI DSS, c'est clairement un référentiel et le QSA va vérifier qu'on est conforme à ce référentiel. La sécurité, c'est faire en sorte que les données soient intègres, accessibles, confidentielles quand elles doivent l'être. En fait, ce qu'a fait le PCI Council, c'est qu'il a décidé quelle était la sécurité que lui, il voulait sur les données qui sont les cartes bancaires et il en a déduit des mesures de sécurité. Et elles sont énoncées dans le référentiel PCI. Donc, être conforme au référentiel, c'est quand même avoir mis en place des mesures de sécurité, donc au moins sur les données cartes bancaires, celui qui est conforme a dû quand même faire un minimum de sécurité. Et, maintenant, évidemment, ça n'empêche pas de ne pas faire de sécurité ailleurs, autour. Ça n'empêche pas que peut-être il est certifié par quelqu'un qui n'a pas correctement fait son travail et donc qui n'a pas vérifié que les mesures de sécurité étaient réellement en place. Enfin voilà, il peut y avoir plein de mécanismes par lesquels on croit être conforme au référentiel, donc avoir la conformité, mais on n'a pas la sécurité.
Par rapport à une démarche de sécurité classique, où on va fonctionner avec une approche par une appréciation des risques et la mise en œuvre de mesures pour réduire les risques, dans le cadre de PCI DSS, l'appréciation des risques, elle a été faite par les marques de cartes, pour les marques de cartes et les banques, et il n'y a absolument aucun risque qui sont couverts par défaut dans le standard pour couvrir les risques des marchands ou des prestataires de services de paiement qui ne sont pas également des risques portés par les marques de cartes. C'est-à-dire qu'il faudra, quoi qu'il arrive, compléter ces mesures par des mesures qui sont directement liées à nos risques propres.
Alors, dans les grandes lignes, quelles sont les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour être compliante?
Déjà, la première règle, c'est si on n'a pas besoin de la donnée, on ne la conserve pas. Et si on a besoin de la conserver, soit il faut la protéger, donc soit hachée, tronquée ou chiffrée. Mais le standard PCI regroupe 290 exigences qui sont réparties sur 12 chapitres, qui traitent aussi bien les aspects organisationnels que techniques. Donc on va parler on peut parler des procédures d'embauche, la sensibilisation, des processus RH, mais également de la revue des règles de pare-feu, des vérifications, des durcissements des systèmes, des revues de code pour les applications développées au sein d'une entreprise, etc.
Alors, il semble que cette norme serve de guideline pour des entreprises qui n'ont rien à voir avec, qui ne traitent pas justement avec des numéros de carte bancaire. Qu'en est-il de cela ?
Attention, ce n'est pas une norme. Une norme est un consensus entre les acteurs du marché. Le référentiel PCI n'est pas du tout un consensus. Il est édicté par les émetteurs de cartes au travers du PCI Council, sans l'avis ni des marchands, ni des prestataires de services de paiement, ni bien sûr des utilisateurs de cartes, ou très peu. Donc, de ce point de vue-là, c'est un référentiel ou un standard, mais certainement pas une norme.
D'accord. Alors, je repose ma question. Est-ce que ce référentiel ou ce standard est utilisé par des entreprises qui n'ont rien à voir avec les cartes bancaires ?
Personnellement, j'en ai pas connaissance.
Globalement, les mesures de sécurité qu'on va retrouver dans PCI DSS, il y en a un grand nombre qui sont des mesures de bon sens, faire des revues de code, adopter des pratiques de développement sécurisé, gérer les droits d'accès, etc. Donc ça se recoupe très rapidement. Et donc effectivement, quand on a des auditeurs qui vont avoir des approches un peu globales et faire un exercice absolument amusant de faire un mapping entre différents référentiels, on va avoir des croisements entre l'ISO 27002, PCI DSS, etc. et d'autres référentiels. Mais après, entendre parler d'acteurs qui mettraient en œuvre une démarche de conformité PCI DSS sans devoir le faire, moi j'en ai jamais vu.
Non, ce qui arrive parfois, c'est qu'un acteur utilise PCI DSS sur sa plateforme de paiement et ensuite étende au reste de son SI un certain nombre de bonnes pratiques qu'il extrait de son laboratoire PCI, entre guillemets.
Mais alors justement, l'acteur qui va implémenter son PCI DSS, enfin c'est qui? Globalement, moi demain, je décide de faire une boutique de figurines de chatons en ligne et je veux gérer les paiements. C'est moi qui... Enfin, je dois être compliant PCI DSS ou pas ou
est-ce... Non, je te rassure, tu dois pas être conforme PCI du tout. Parce que tu vas faire appel à un prestataire de paiement, en premier lieu et de manière très classique, la banque à laquelle ta société de figurines de chatons a un compte en banque. Et donc, c'est ton prestataire de paiement qui, lui, sera conforme et pas toi.
Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Hervé. Ça dépend aussi du volume. C'est-à-dire que...
Alors, je m'excuse, j'ai assumé... Non, mais j'ai effectivement assumé qu'une PME qui vend des figurines de chatons n'a pas un volume de transactions suffisant. Ah,
tu sous-estimes le marché de la figurine de chatons.
Ah oui, attention, j'ai fait une étude de marché et demain, vous ferez moins les moins là avec ma bagnole de riche. Mais justement, ça, donc finalement, c'est à partir de quelle échelle? Enfin, les gens qui
Il y a un point qui est important, c'est que PCI DSS, on est dans le domaine des obligations contractuelles. Ce qu'on retrouve très souvent dans les messages, notamment du PCI Council, mais d'un certain nombre d'acteurs qui profitent de ce standard, c'est que dès qu'on traite, qu'on stocke, qu'on fait transiter des numéros de CB, donc des PAN et les données associées, on doit être PCI DSS. Ça, c'est pas vrai. On doit être PCI DSS quand on a une obligation contractuelle, donc avec une banque ou avec un organisme de carte directement qui nous l'impose. Il n'y a aucune obligation en dehors d'une obligation contractuelle DSS. Là où le système est assez bien foutu, c'est que PCI DSS est viral. C'est-à-dire que quand on est certifié PCI DSS, par transitivité, on doit imposer à tous ses prestataires d'être également PCI DSS. Et donc, on a cette contamination de l'écosystème monétique et des environnements de paiement où tous les acteurs, petit à petit, doivent se mettre en conformité avec le standard parce que leurs clients leur imposent. Mais encore une fois, il n'y a aucune loi qui impose d'être PCI DSS et tant qu'on n'a pas un contrat qui nous force à l'être, on n'est pas obligé d'être. Et la plupart des banques imposent PCI DSS petit à petit dans les contrats, mais les contrats doivent être renouvelés et il y a encore énormément de contrats bancaires pour des marchands qui n'imposent pas la certification PCI DSS. Maintenant, dans les nouveaux contrats, ça l'est, mais pas dans les anciens.
Tu veux dire que si je fais une boutique en ligne, maintenant, il va falloir bientôt que je sois conforme PCI DSS?
À la prochaine renégociation avec la banque, si jamais ils y pensent, parce que les banques ne sont pas forcément toujours excellents, donc ça peut passer à la trappe dans la négociation. Mais normalement, la banque est censée obliger les marchands à être conformes à PCI DSS, avec un certain nombre d'obligations qui dépendront du nombre de transactions et du type de carte utilisée.
Alors aujourd'hui, il y a deux ou trois grands réseaux bancaires qui déjà vont vérifier comment est saisi le numéro de carte. Et à partir du moment où la carte va être saisie sur la page du commerçant avec le PAN qui va transiter quelque part au niveau du serveur, vont demander à minima une auto-certification compte tenu du volume. La plupart des banques ont depuis quand même un certain temps quelque chose qui concerne PCI DSS et cette année elles commencent à bouger vers les commerçants pour leur demander de leur confirmer une certaine compliance.
Et ça, c'est de l'auto-confirmation. Je dis, ok, c'est bon, vous inquiétez pas, regardez ce chaton, cette figurine, elle est mignonne, et donc je suis conforme.
Encore une fois, ça dépend du nombre de transactions annuelles.
Et du type de carte.
C'est-à-dire qu'il y a quatre, niveaux, enfin, en fonction des réseaux et du type, mais pour les marchands, il y a quatre niveaux de marchands, sachant que le marchand niveau 1, pour Visa, Mastercard, c'est un marchand qui traite plus de 6 millions de transactions. À partir de ces 6 millions de transactions, effectivement, on est considéré comme marchand de niveau 1 et donc on est censé subir un audit réalisé par un QSA et en particulier par une QSA compagnie, puisqu'une entreprise, un QSA ne peut pas être auditeur PCI indépendant, il doit faire partie d'une entreprise qui est également, elle, certifiée QSA compagnie.
Donc en fait, si Nicolas vend 6 millions et un chaton par an, il est obligé de faire certifier par une société qui a des QSA son site web, même s'il délègue la partie acquisition du numéro de CB dans une iframe ou dans ce que l'on veut qui se situe sur le réseau de chez Laurent.
Alors, c'est à l'acquéreur. Quoi qu'il arrive, c'est toujours l'acquéreur qui est responsable de la conformité du marchand. C'est-à-dire que en cas de compromission de ce marchand, c'est l'acquéreur que les réseaux de cartes vont aller voir en disant « ce marchand a été compromis, on va vous imposer des pénalités ». Et après, libre à l'acquéreur, donc à la banque acquéreur, de rediriger ses pénalités directement sur le marchand.
Mais Nicolas, il n'a pas les numéros de carte vu qu'ils sont stockés chez Laurent.
Alors, ça dépend de la méthode d'implémentation. Quoi qu'il arrive.
C'est pour ça que je parlais d'une iframe qui redirige vers chez Laurent. Enfin, c'est.
Alors, iframe, c'est la pire solution, mais.
Oui, non, c'est un truc bête, mais bon, voilà quoi.
Dans tous les cas, dans la dernière version de PCI, le PCI-SSC a redéfini la notion de portée du standard en incluant tous les, de façon assez générique, tous les systèmes qui sont susceptibles d'impacter la sécurité des données cartes doivent être conformes à PCI-DSS. Donc si dans le cas d'une redirection, on n'a pas accès au numéro de carte directement, la redirection en tant que telle peut impacter la sécurité des données cartes.
Il faut prendre en tête que le standard, c'est un standard qui a un cycle de vie qui est cadré et qui vit. Et notamment dans les types de formulaires qu'on doit remplir quand on est marchand ou prestataire de services de paiement, à chaque version du standard, il y a de plus en plus de versions différentes pour prendre en compte les différents cas. Et évidemment, si on a une redirection vers un service de paiement géré par un tiers, donc par un iframe ou autre, on va avoir beaucoup moins d'exigences à remplir que si on est directement interfacé avec les banques ou même la transaction. Donc on a ce qu'on appelle des questionnaires d'auto-évaluation et des ROC qui sont qui dépendent en fait du type d'actions qui sont réalisées de marchands ou de prestataires de services de paiement.
Voilà, parce que ce que je comprends pas bien dans ce standard, c'est que si le marchand, donc Guillaume, qui a ses chatons dans sa boutique, il a jamais ou grand jamais une information de carte, on va lui imposer de respecter des exigences de sécurité du PCI-DSS. Pour moi, c'est un non-sens, en fait.
Alors, un petit exemple. Ton serveur est hébergé sur un serveur mutualisé où tu as le mot de passe qui a traîné. Quelqu'un vient remplacer les scripts qui font la redirection vers le PSP, dans le phase d'appartement, vers un script qui lui est sur ton serveur et qui récupère les données.
Okay. Ouais, d'accord. Donc, comme je suis sur le chemin de l'argent, entre guillemets, bah, effectivement, il vaut mieux que je sois audité. C'est pas incohérent. Enfin, en tout cas, au moins que je déclare que je suis compliant moi-même. Parce que tu avais raison, Hervé, c'est un petit marché, je pense, la figurine de chaton, malgré la population qui est en France.
Voilà, donc si c'est un petit marché, tu n'auras peut-être pas nécessairement à subir un audit. Tu pourras remplir
à jouir d'un audit, tu veux. ne subit pas un audit, on en bénéficie.
Mais au final, si Guillaume n'a pas à jouir de son audit, est-ce qu'il pourra jouir de l'amende éventuelle que pourrait lui imposer le PSP ou le PCI STC parce que Guillaume n'a pas sécurisé son serveur et a pu se faire pawner en lui remplaçant ses scripts qui appellent le PSP?
Alors, l'amende, elle n'est jamais émise par le PCI-SSC. Le PCI-SSC rédige, enfin, ils ont un certain nombre de responsabilités, entre autres la rédaction des standards de sécurité. Donc, on a PCI-DSS, PADSS, enfin, tout un lot de standards. Ils sont également responsables de lister les auditeurs qui sont certifiés. De lister également les entreprises partenaires, enfin pour les scans de vulnérabilité. Dans le cadre de PCI, on doit faire des scans de vulnérabilité. ASV, par exemple, ce sont des scans externes. Donc pour ASV, ça veut dire Approved Scanning Vendor, c'est-à-dire que ce sont des entreprises comme Tenable, Qualys ou autres qui sont
dans les produits sans agrès pour faire des scans
de sécurité par le PCI-SSC pour faire des scans. Mais en aucun cas, le PCI-SSC n'imposera des pénalités. Les pénalités, elles viennent de la part des réseaux qui sont ensuite redirigés vers les banques acquéreurs et après les banques acquéreurs qui peuvent les rediriger vers les marchands.
Oui, et puis les pénalités, n'oubliez pas que c'est simplement que le pourcentage pris sur chaque transaction de paiement par carte va augmenter.
Ça dépend si on parle de compromission ou si on parle de la pénalité de non-conformité.
Ouais, la non-conformité, c'est ils augmentent leur pourcentage.
C'est vrai que en général, les pénalités, elles sont gérées contractuellement entre les banques qui sont les acquéreurs et les marchands pour le cas des marchands. Là où on est dans un cas un petit peu particulier, c'est sur tous les prestataires intermédiaires, donc ceux qui vont faire transiter les flux. Avoir des rôles dans les différentes étapes du chemin monétique, où eux, ils n'ont pas forcément de contrat avec une banque, d'ailleurs, en général, ils n'en ont pas. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est les marchands qui vont les contraindre à être PCI-DSS, et eux vont signer un contrat directement avec les marques de cartes, PCI American Express, Mastercard ou Visa, en s'engageant à respecter PCI-DSS. Et du coup, eux peuvent se retrouver à payer des pénalités aux marques de cartes et pas donc aux banques acquises.
Et ces pénalités, alors, est-ce qu'elles sont les mêmes pour tous les pays? Il semble qu'il y a quelques années, les anglo-saxons étaient plus enclins à se certifier plutôt qu'en France. Est-ce que les pénalités étaient moins fortes en France?
Alors, les pénalités, elles sont gérées par les réseaux directement. Mais à ma connaissance, c'est pas par pays. Il y a un référentiel et
c'est peut-être géré par région selon les marques de cartes. Typiquement, ouais. Visa est organisé par région. Vous avez Visa US, Visa Europe. Peut-être que les pénalités sont différentes selon les régions du monde.
Et un point par rapport à notre configuration en France, le GIECB là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire en fait?
Bah, c'est comme Visa ou Mastercard pour la France, puisque les cartes qui ont le logo CB, quand on est en acquisition France, ne vont pas passer à travers le réseau Visa ou Mastercard, sauf pour le 3D Secure. C'est un réseau d'acquisition comme Visa ou Mastercard. Donc le GIECB est censé imposer à ses membres d'être PCI-DSS. Hervé pourrait en parler.
Exact, oui, mais cependant, je pense que, disons que c'est un autre sujet. Mais c'est très intéressant, mais c'est une question compliquée, et enfin, c'est une question diplomatiquement délicate, et donc c'est un autre sujet.
Alors justement, on va changer de sujet. PCI DSS, est-ce que c'est un business driver, et si oui, pour qui?
Ah ben c'est un business driver pour Visa, Mastercard et compagnie. Hein. Ceux qui font le plus de pognon dans tout ça, ce sont toujours eux. Après, il y a nécessairement un business pour la certification PCI. Maintenant, ce business pour la certification PCI, ça reste un business comme un autre qui n'est pas un business facile, qui est soumis à une concurrence très forte, des gens qui baissent les prix, alors qu'une certification PCI, c'est un travail de longue haleine. On doit accompagner son client, on doit avoir une relation très forte avec le client certifié, de manière à ce que le client certifié ne change pas ce sur quoi vous avez donné votre accord dès que le QSA a le dos tourné. Donc, c'est un vrai travail de partenariat dans la durée. Et ça, ça vaut de l'argent et ça coûte cher. Et sur un marché concurrentiel, c'est toujours difficile. Après, il y a un vrai business pour les produits. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui prétendent que leur produit permet d'être conforme PCI ou que leur système de test de vulnérabilité, qu'on a parlé des scans ASV et permet de répondre aux exigences du référentiel PCI. Et là, oui, clairement, ces gens-là ont réussi à faire un business non négligeable. Enfin, c'est pas la première fois que les éditeurs de produits ou de services sont les plus bénéficiaires dans le marché de la sécurité. C'est récurrent, quel que soit le sujet, même si c'est pas PCI.
Alors, tu parlais d'accompagner son client, etc. Il y a d'ailleurs même une problématique de responsabilité, il me semble, du QSA qu'on n'a pas évoqué.
Alors oui, normalement, le QSA et sa société sont responsables. Maintenant, j'ai des doutes sur ce fonctionnement. On a parlé dans des épisodes précédents de la problématique de Target qui a été victime d'une catastrophe où les cartes bancaires ont fuité. On sait que le certificateur PCI n'a pas fait son travail, puisqu'un certificateur PCI, il doit véritablement auditer pour de vrai en voyant les systèmes sous les yeux, alors que là, il semblerait que, d'après la presse, que le certificateur se soit contenté de téléphoner et de faire confiance à ce qu'on lui disait au téléphone, comme quoi, oui, la mesure de sécurité est bien mise en œuvre. Bon, tant que le certificateur auditeur en question existe toujours, on peut avoir des doutes.
Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce cas-là? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la plupart des attaques, elles se font avec des scrappers mémoire ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont même pas prévues dans PCI-SS.
Ah, c'était le cas de Target d'ailleurs, hein.
Oui, mais indépendamment de l'attaque et de tout ce qui en a suivi, il y a eu une mauvaise gestion des remontées d'alerte qui font partie des choses qui doivent être faites correctement dans le cadre des règles du PCI des DSS. Et donc, à partir de là, le fait qu'il y a une fuite de cartes et que le certificateur n'a pas fait son travail, on aurait dû quand même beaucoup plus largement se retourner vers le certificateur. Cela dit, l'assurance du certificateur a aussi participé au financement de la catastrophe.
Tu veux dire qu'en gros, pour le certificateur, c'est plus rentable de faire un certificat de complaisance et ensuite de laisser l'assurance payer ?
Les sociétés qui font ce type de raisonnement ne sont pas représentées ce soir.
Mais il y en a.
Il y a toujours des gens d'une nature très différente sur tous les marchés. Il y en a qui sont dans le court terme, d'autres dans le long terme, par exemple.
Mais de toute façon, quand on prend des sociétés QSA, si grosses soient-elles, même si bon, en France, il y a surtout des petits acteurs, quand on est face à des acteurs comme Target ou d'autres géants qui vont traiter des millions, voire des milliards de transactions par an, évidemment, l'avis de l'auditeur pèse pas lourd par rapport au poids du management et à la pression qui va être mise par le business sur le sujet. Donc, sans parler de certificat de complaisance, il y a forcément des moments où des certificateurs vont avoir tendance à accepter des situations transitoires qui durent peut-être un peu plus longtemps que ce qui était prévu, etc. Parce que on est sur des très gros enjeux, des très gros montants, et dès qu'on est sur ce type de certification ou des certifications équivalentes, il y a forcément des discussions entre les directions financières, les directions métiers et le certificateur pour trouver un compromis sur une situation qui n'est pas satisfaisante, mais on ne peut pas arrêter Target ne peut pas arrêter du jour au lendemain parce qu'ils ne sont pas conformes à PCI-DSS. Et mettre en conformité des sites de cette taille-là, peut faire ce qu'on veut, ça prend des années, on n'est jamais à un niveau de conformité complet par rapport à PCI DSS.
Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que dans les piratages de Sony, Sony s'est fait pirater les cartes bancaires, et Sony n'était absolument pas conforme PCI alors qu'il avait très 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 largement dépassé les seuils, simplement parce que quand on est Sony, Visa et les autres peuvent bien vous dire il faut être conforme, vu le business et le nombre de transactions que représente Sony, c'est Visa qui a besoin de Sony, c'est pas Sony qui a besoin de Visa. Et donc lui, carrément, à ma connaissance, il n'a jamais fait appel à personne pour se certifier alors qu'il aurait dû l'être. Mais c'est contractuel tout ça, donc c'est de la négociation, ce sont des gros sous.
Donc en fait, ce qu'on protège vraiment, c'est les organismes de carte bancaire, et enfin, finalement, c'est pas la peur que moi j'ai de voir mon numéro de carte bleue partir dans la nature.
Absolument.
Il y est déjà dans la nature.
Non, mais il est sur le dos d'un char.
Oh mon Dieu, c'est mignon, ça me va.
Mais non, il est sur toutes les facturettes à partir du moment où tu payes.
Déjà, on donne sa carte, comme je disais tout à l'heure, mais il suffit de réserver dans un hôtel sans passer par une énorme plateforme de réservation pour que très vite, on nous demande d'envoyer une photocopie de sa carte bancaire pour faire la réservation. Donc, des numéros unitaires de carte, on va en trouver partout, chez des acteurs aussi bien gros que petits. Mais vraiment, PCI DSS vise à éviter un scénario d'avoir plusieurs millions ou dizaines de millions de numéros dans la nature, parce que rien qu'au prix de remplacement d'une carte, ça se compte en dizaines de dollars, remboursement des frais liés aux dépenses qui sont réalisées de manière frauduleuse après, ça peut se compter en dizaines de millions, voire en milliards de dollars.
En même temps, il y a un truc qui est très franco-français aujourd'hui sur la VAD, c'est l'abonnement au magazine. J'ai pas ce magazine français qui parle de fusils et d'animaux dans la nature, par lequel on peut s'abonner en envoyant un petit coupon. Mais il me semble que ce type de magazine, en fait, t'es censé mettre ton numéro de carte, ton CVV, ta signature, la date d'expiration, et puis c'est envoyé à je sais pas quoi. À un endroit, c'est scanné et puis ensuite ça rentre dans un système d'information, non ? Donc au final, PCI DSS, ces gens-là, ils s'en fichent un petit peu.
Il n'y a pas besoin du CVV pour faire une transaction. Si vous prenez la plupart des terminaux de paiement, vous pouvez acquérir une transaction juste en tapant le numéro de la carte manuellement sur le terminal. Donc les éditeurs de magazines qui doivent gérer quelques abonnements par semaine, ils ont un type chez eux, un terminal de paiement chez eux, et ils peuvent saisir quelques transactions par carte.
Mais ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas besoin du CVV, donc ils le demandent, et quand on ne veut pas le donner, ils ne veulent pas aller plus loin.
Ouais, c'est une manière de vérifier que vous avez vraiment la carte.
Alors pour revenir là sur l'exemple où tu disais quand on réserve sur un petit hôtel, quand on passe pas par une grosse chaîne de réservation et qu'on réserve sur un petit hôtel, quand on réserve par une grosse chaîne de réservation, je vais citer personne, mais une grosse, donc celle qui va sortir en premier sur Google, ton numéro de carte, il est mis en clair dans la base de données, accessible à l'hôtelier quand il arrive.
A priori, ils font l'intermédiation complète, donc je suis pas sûr que l'hôtelier ait accès directement au numéro de carte.
Ça dépend du mode de réservation, effectivement. Quand c'est prépayé, le paiement peut être fait sur la plateforme de réservation, mais lorsque c'est une réservation, en général, le numéro de carte est envoyé aux hôtels. Oui.
Et quand il arrive, certains hôteliers te demandent de lui montrer sa carte pour vérifier que c'est la même.
C'est vrai.
Donc c'est pour ça que quand tu arrives à l'hôtel, tu te mets de telle manière que tu vois l'écran et tu lui demandes « montrez-moi ce que vous voyez là ». Là, tu lui expliques les CIDSS et il t'envoie peut-être.
Ouais, et des fois aussi, ils disent « c'est pas la bonne carte qui a fait la réservation, tu veux pas me la montrer, tu dors pas ici oui. ». J'ai vécu ça, c'est pas très marrant.
Ouais, c'est comme quand on veut retirer ses billets de train à la gare, si on n'a pas la bonne carte, on ne part pas.
Oui, c'est vrai, sur mes 14 cartes, effectivement, je ne prends jamais la bonne, c'est vrai.
Oui, tu vends trop de chatons.
On peut parler d'un système de réservation de transport où le PAN est la clé du fichier.
Ah ah.
Ça existe ?
Quand tu as construit ça, il y a...
Ça existe encore ?
Écoutez, dans la nature, on a vu beaucoup mieux. Et c'est là où PCI a quand même servi à quelque chose. Pour parler des hôtels dont on vient de parler, alors je ne sais pas qui fait la certification des hôtels, mais bon, Il y a quand même eu dans le monde des hôtels qui avaient tout simplement utilisé la carte bancaire pour ouvrir la porte de l'hôtel, la porte de la chambre de l'hôtel. Donc bon, c'est un peu bizarre quand même. Il y a des gens qui ont mis des terminaux, des guichets automatiques bancaires directement sur Internet sur des ADSL. Bon, à chaque fois que PCI est passé par là, il a évité la catastrophe. Ça, c'est un peu l'aspect positif de PCI qui fait un peu monter la sécurité.
Ok, donc on a parlé de PCI DSS, on a posé quelques questions autour de ce référentiel. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes ou surprenantes pour nos auditeurs ?
Oh oui.
Alors on t'écoute, Laurent.
On va parler du CVV en avance de phase, parce que je pense qu'on en reparlera. Un client qui fait son implantation, son implémentation chez nous, qui un jour m'appelle en me disant « Mais je ne comprends pas, vous ne faites pas comme mon prestataire précédent, vous ne me renvoyez pas le CVV. »
Ah ouais, d'accord. Mais c'est... Ça commence bien.
Non, mais je comprends pas pourquoi... je comprends pas l'anecdote. Tu peux... pourquoi
La raison pour laquelle le CVV était utilisé dans ce cas-là
ou... Ouais. Pourquoi est-ce que le précédent renvoyait le CVV?
Parce que c'était sur la possibilité de pouvoir faire du débit sur la carte. Alors, je peux peut-être rentrer un petit peu dans la partie technique. En France, en CB2A, il y a des ERT. Et quand on fait un paiement sur Internet avec la personne qui est présente, et c'est bien elle qui rentre son CVV, c'est un ERT 24. Après, quand on fait de l'abonnement et que la personne n'est pas là, ça sera un ERT 27 ou un ERT 29. Donc, quand on veut faire un débit mensuel pour de l'abonnement, on ne présente pas le CVV, mais on a implémenté dans le protocole quelque chose qui dit clairement « je suis en train de faire une transaction récurrente ou un abonnement, donc je ne vais envoyer que le PAN et la date de fin ». Si j'ai pas implémenté ça, je suis obligé de récupérer le CVV de quelque part pour faire un ERT 24. Et donc, comme le prestataire de paiement n'a pas le droit de conserver le CVV, je pense qu'il y en a un qui avait trouvé une bonne idée de le renvoyer au marchand. Le marchand avait un token, il n'était donc ni le PAN, ni la date de fin, et il avait le CVV, et au moment où il voulait faire un débit, ben, il faisait un débit. Malheureusement, alors on va aller un peu plus loin dans l'anecdote, malheureusement, en général, quand tu fais ça, tu fais des traitements automatisés, tu les fais la nuit, et les émetteurs de cartes, quand on va prendre les très gros réseaux bancaires français, il y en a deux qui sont relativement bons, et qui ont commencé à se dire « c'est quand même étonnant que j'ai pour ce marchand-là 2 à 300 clics de mes clients qui se lèvent à 3 heures du matin tous les mois pour rentrer leur CVV ».
Effectivement.
Donc voilà à quoi peut servir le CVV, détecter des mauvaises pratiques.
Moi, j'avais une question par rapport aux exigences qu'on trouve dans le PCI DSS. J'ai l'impression que c'est pas clair en fait dans des tas d'exigences. C'est soumis à une grosse appréciation de la part du QSA. Est-ce que c'est bête à dire, mais quand on le lit à certains endroits, on nous dit faut faire ça. Et quand on commence à gratter sous le vernis marketing du PCI-STC, on s'aperçoit que techniquement en dessous, on est un peu libre de ce qu'on peut faire. Je vais prendre un exemple très simple. On parle à plein d'endroits de développement sécurisé et on parle de secure coding. Et sur le secure coding, on parle de qu'il faut faire ça, il faut faire ça, faut faire des revues de code. Et lorsque le commerçant ou le client qui va faire son audit là par le QSA, il demande à son auditeur qu'est-ce qu'il veut comme document de revue de code. Souvent, il y a des auditeurs qui lui font faut voir, je sais pas.
Oui, mais ça, c'est la différence effectivement entre le QSA compétent et le QSA incompétent. Je reconnais que, enfin, moi, je pense que le développement, la qualité du développement des applications qui manipulent les numéros de carte, ça doit être explicitement, clairement analysé et fait. Donc, s'il n'y a eu aucune revue de code vis-à-vis de sa sécurité, de fuite de données, d'analyse de la production de journaux, je ne sais quoi, c'est absolument pas acceptable. Maintenant, oui. Bon, il y a peut-être des, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des QSA un peu plus complaisants.
Non, mais enfin, je suis d'accord avec toi, Hervé, mais pour avoir eu la chance ou la malchance de voir différentes personnes qui étaient en train de subir ou de jouir d'un audit PCI, plusieurs fois la question était, mais le QSA n'est pas capable de nous dire ce qu'il attend en termes de preuves d'audit sur la revue de code, parce que il semblerait qu'il n'y ait pas de la part du PCI-SCC des directives claires. Ils disent qu'il faut faire une revue de code, mais ils ne donnent pas de points type. Donc, moi, la question, c'est est-ce qu'il y a quand même encore beaucoup d'interprétations là-dessus, ou vous avez des directives claires? Enfin, ça, c'est directement au QSA que je pose la question.
Ça a beaucoup évolué, en fait. Au fil des différentes versions du standard, le standard s'enrichit. Et typiquement, si on prend l'exemple du développement sécurisé, auparavant, effectivement, il fallait mettre en œuvre des pratiques de développement sécurisé. Dans les nouvelles versions du standard, on a des listes de pratiques qu'il faut mettre en œuvre, éviter les cross-site-scripting, etc. Enfin, en gros, tout ce qu'on va retrouver dans l'OWASP.
Mais oui, en fait, il y a tout l'OWASP hein, maintenant dans PCI. Mais... Tu savais pas, Sébastien ?
Ouais, si, mais ça suffit pas.
Mais non,
le WASP, ça suffit pas.
Mais non, parce Sébastien, que le WASP, c'est juste le web.
Non, mais globalement.
Dans les pratiques du PCI, c'est juste, on te parle juste que de trucs de base de web. Je suis désolé. On te parle de ça et on te parle de Secure Coding du CERT. Et quand tu regardes le Secure Coding du CERT, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus vaste que le WASP. Donc, je suis d'accord.
Ouais, tout à fait.
Ça s'améliore, mais le point, c'est le point important, moi, que je vois dans cette approche, c'est la preuve d'audit. Quelle est la preuve d'audit qui est nécessaire au QSA? Est-ce qu'on lui dit, tiens, voilà un document de revue de code, ou tiens, j'ai fait manger mon code, par exemple, à un outil qui est un tampon ASV. Enfin voilà, enfin c'est. Est-ce qu'il y a des directives claires de la part du PCI SCC ou est-ce que c'est globalement, effectivement, si le mec vous sort qu'il a fait un scan ASV avec un outil de revue de code du marché, c'est bien, ou est-ce que vous avez la directive qui est de dire il faut que le gars ait fait un threat modeling, qui est derrière, et regarder que vous avez qu'il a des normes de codage sécurisé. Enfin voilà, enfin quelle est un peu l'approche du PCI-SCC, parce que quand on lit les docs du PCI de base que on a nous pauvres non QSA à notre disposition, c'est pas clair en fait. Et le client aussi c'est pas clair d'ailleurs.
Alors, juste pour apporter un complément sur le secure coding, vous avez effectivement des exigences qui sont assez légères dans PCI DSS. Par contre, ce dont on pense assez rarement à regarder, c'est tous les documents qui gravitent autour de PCI DSS. Sur le site du PCI SSC, vous avez ce qu'ils appellent les documents complémentaires, qui sont tout un tas de documents qui ont fait l'objet d'un consensus auprès des marques de cartes et qui apportent beaucoup, beaucoup d'informations supplémentaires pour la mise en conformité de système. Et typiquement, il me semble que sur le développement sécurisé, il existe un guide qui porte justement là-dessus.
C'est gratuit ou faut payer ?
Non, tout est gratuit, tout est sur le site du PCI SSC.
C'est pas une doc où il faut être QSA.
Non plus.
Non, c'est.
Maintenant, pour répondre à la question de manière générale sur les attentes des QSA en termes de preuves, ouais. Alors déjà, il y a deux cas à distinguer. Avant la version 3.0 de PCI DSS, le QSA, tout ce qu'il avait pour réaliser l'audit, c'était le standard PCI DSS. Maintenant, à partir de la 3.0, le QSA a aussi le ROC Reporting Template qui donne beaucoup plus de directives quant à la profondeur de l'audit. C'est-à-dire que pour un point dans PCI DSS, pour une exigence donnée dans PCI DSS, avec le ROC Reporting Template, le QSA aura 4, 5, 10 points de vérification à documenter dans le cadre d'un ROC.
À titre d'info, ça a triplé les temps de rédaction de rapport.
Oui, oui, ça a triplé les prix.
D'ailleurs, parlons-en de ça, parce qu'en fait, quelque part, je me place à la place de Laurent. Je fais 10 milliards de transactions par jour parce que je vends beaucoup de chatons sur Internet. Et j'ai besoin de choisir un QSA. Donc, je vais choisir un QSA. C'est moi qui le paye et c'est lui qui me donne la certification. Il n'est pas un peu jugé parti?
Oui, mais ça, c'est le mécanisme que tu trouves dans toutes les certifications. Une certification Argel, c'est le futur certifié qui paye son certificateur Argel. Quand tu veux être certifié, certifié 27001, tu payes une société de certification 27001 pour être certifié. Simplement, toutes ces sociétés qui délivrent des certifications, eh bien, comme elles se font payer pour ça et qu'elles pourraient avoir un peu de compromission avec le futur certifié qui est leur client, elles sont surveillées. En l'occurrence, dans le cas de PCI, on est surveillé par le PCI Council, et puis on peut se surveiller entre soi puis se dénoncer entre soi aussi.
Sachant que encore une fois, quand on à l'issue d'un audit, donc le ROC, le report of compliance qui est rédigé, si tout est en place, on peut produire l'AOC, l'attestation of compliance. Et cette AOC, elle est signée par le QSA et le client. C'est-à-dire qu'un QSA, même s'il a réalisé l'accompagnement de son client, il a aucun intérêt à faire un certificat de complaisance, puisque c'est sa responsabilité ainsi que celle de sa société qui serait engagée en cas de compromission.
Mais déjà, il lui est pas interdit de faire à la fois l'accompagnement et puis après de faire l'audit.
C'est le principe même de PCI, c'est que c'est le même qui fait tout, et comme il accompagne, il dit directement quelles sont les bonnes solutions avec lesquelles il sera d'accord, aussi bien en termes organisationnels que de mesures techniques précises et de produits.
Ah bah c'est rapide alors.
Non mais finalement l'audit de certification lui-même, ça consiste à réunir suffisamment de preuves pour que le QSA ait un dossier qui lui permet de démontrer si jamais il y a un problème qu'il a bien fait toutes les vérifications qui étaient nécessaires et donc le client est conforme. Mais le gros d'une mission PCI DSS pour aller jusqu'à la certification, c'est dans la phase de mise en œuvre de la conformité où là le QSA et son client travaillent main dans la main pour définir une archi conforme à PCI DSS. Et c'est ça qui prend le plus de temps.
Et donc quand sa merde, le QSA, il a une assurance, comment ça se passe? Il est responsable de quoi? Est-ce que l'assurance est impliquée dans la signature du papier, justement?
L'assurance n'est pas impliquée dans la signature du papier, mais je te confirme que le QSA a une assurance. C'est une assurance très très particulière, qui est une assurance en responsabilité civile professionnelle au tiers, c'est-à-dire que l'assuré qui recevra de l'argent en cas d'accident, ça n'est pas celui qui a payé l'assurance, ça n'est pas la société certificateur, mais c'est carrément l'émetteur de carte. Ça, c'est un genre d'assurance qui n'existe qu'aux États-Unis. Et donc, aucun assureur d'origine européenne, à ma connaissance, ne propose, et j'ai cherché longtemps. Et donc, tu es obligé d'avoir une assurance très spéciale qui coûte très très cher et forcément auprès d'un assureur américain. Et d'ailleurs, cette assurance très très chère pour la société certificatrice QSA justifie le fait que la prestation d'accompagnement et de certification PCI soit très chère.
Et l'assurance, donc, n'a aucune idée de la qualité des gens qu'elle assure et du travail qu'ils réalisent?
Aucune.
C'est un forfait.
Tout à fait. Je suis beau PCI-DSS. Quand je serai grand, je serai auditeur PCI-DSS.
Écoute, quand tu fais assurer tes prestations en sécurité, tu fais assurer des tests d'intrusion. Les gens vont assurer des tests d'intrusion sans jamais regarder. Si tu fais des tests d'intrusion en faisant très attention à ce que tes tests d'intrusion ne provoquent pas d'accident, n'aient pas d'effet de bord, ne fassent pas une atteinte importante à un système en production, ou si tu fais pas. Donc l'assureur, il regarde pas du tout le protocole et la manière avec laquelle tu fais tes tests d'intrusion pour assurer en responsabilité civile professionnelle les tests d'intrusion. Ben, c'est pareil avec la certification PCI.
Oui, mais bientôt, il va pouvoir se baser sur les qualifications d'organismes nationaux pour pouvoir savoir si tu fais ça bien ou si tu fais ça mal.
Donc, alors, si la qualification passive de la NSSI me permettait de faire baisser ma prime d'assurance, là, il y a une très très grande utilité à la qualification passive instantanée. Je n'ai pas en fait essayé de négocier hein, ma prime d'assurance, mais tu donnes de bonnes idées.
Et donc, il y a quand même eu un paquet de cartons en termes de numéro de carte bleue ces dernières années. Bon, je ne vais pas dire que PCIDSS est un échec, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même l'assurance paye et puis tout le monde reste bons amis. Quoi. Le plus gros crash, ça a été 130 millions de cartes, non?
D'ailleurs, sur Internet, il y a marqué le nombre de millions qui ont payé les assurances. Hein.
Et alors? C'était rentable?
Je ne sais pas.
À ma connaissance, mais c'est à vérifier, les data breaches n'ont jamais donné lieu derrière à des procès entre QSA, marchands et assurances. Donc ça veut dire que tout le monde arrive à se mettre d'accord.
Même chez Target, là, il n'y a pas eu une
histoire. Je ne crois pas.
Non, chez Target, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un pourcentage de responsabilités respectives et les assureurs ont payé proportionnellement à leur pourcentage. Oui, mais vous savez, du point de vue de l'assureur, ça peut rester un business très rentable parce que finalement, par rapport au nombre de sociétés certifiées, ils peuvent considérer qu'il y a encore relativement peu de fuites de numéros de carte, même si nous, au travers d'Internet et des médias, on a l'impression qu'il y en a régulièrement.
Est-ce que vous avez des anecdotes?
Juste une petite pour la route, mais c'est vrai qu'on peut voir des banques qui vont imposer à leurs marchands, alors ce ne sera pas des très grandes banques, mais qui vont imposer à leurs marchands d'être PCI DSS et donc de mettre en œuvre tout un tas de mesures extrêmement contraignantes, mais qui derrière, quand il y a des problèmes sur les transactions, vont envoyer des PDF avec la liste des transactions en échec avec les numéros de carte en clair envoyés par mail. Donc ça montre que même au niveau des banques, même s'ils imposent cette certification, ils ne sont pas forcément bien meilleurs. Et après, je ne parle pas des très gros acteurs qui, eux, maîtrisent plutôt bien sûr.
Et je ne parle pas des banques qui conservent dans l'espace bancaire ton numéro de carte bancaire avec la date d'expiration. D'accord, il n'y a pas de CVV.
Mais on n'en a pas besoin, non?
Pour payer.
Bon, eh bien, on espère que vous en savez plus maintenant sur PCIDSS. Merci à nos invités pour avoir évoqué ce sujet avec nous. Un grand merci également à nos auditeurs qui nous retweetent sur Twitter. Ça contribue à nous faire connaître. On espère donc que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Ciao.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.